Linkin Park, Castle of Glass.
C'est la chanson qu'Adrien a choisie. Donc on écoute ça maintenant. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur cette chanson?
Pas vraiment.
D'accord. Alors on écoute ça, Linkin Park, Castle of Glass, Château de Glace. C'est parti.
Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing. Past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow. Drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see. For you to see.
Linkin Park, Castle of Glass. Ben voilà, ça détend un petit peu. Donc, comme je disais, donc, nous recevons Cyprien Fonviel, directeur du site mémorial du Camp des Milles. On va se recentrer justement, même si on a eu un échange passionnant sur la vie d'aujourd'hui, on va quand même se recentrer sur l'histoire du Camp des Milles, avec une question, Adrien, que tu vas poser.
Est-ce que vous avez une histoire en particulier à raconter au sujet d'un ou plusieurs adolescents
qui ont été internés au camp?
Alors, les histoires d'adolescents internés au camp, ça arrive dernière période, puisque jusqu'à l'été 42, les personnes qui sont acceptées au camp des Milles ont plus de 16 ans, donc considérées comme adultes par la loi. Dernière période, il y a une histoire qui me tient à cœur, et qui me tient à cœur parce que c'est une histoire qui permet de montrer justement qu'il faut rester debout, tout simplement. Herbert Traube, c'est un jeune Autrichien qui est un adolescent qui arrive en France avec sa mère et son père, qui va être interné dans différents camps.
Il a quel âge ?
Il a 16 ans. Ah, okay. Il va être interné au camp de Gurs, qui est un autre camp, avec sa mère. Sa mère va décéder, donc il va décider de s'échapper du camp. Et il va se retrouver à Marseille. Et arrivant à Marseille, il va trouver quelqu'un qui accepte de le loger et qui lui demande donc de rendre un certain nombre de services régulièrement. Donc, il va rendre ses services parce que cette personne est sympa, qu'il y a des jeunes autour de lui en permanence. Il va comprendre au bout de quelques temps, en réalité, qu'il est rentré en résistance, sans s'en rendre compte, parce qu'on lui fait livrer un certain nombre de choses, on lui fait déplacer des personnes, amener des personnes dans le Vercors. Et puis, il va se retrouver un jour arrêté, donc dernière période, et arrêté, envoyé au camp des Milles. Il va partir par l'un des trains de déportation qui part du camp des Milles, et il explique, lui, qu'il va réussir à sauter de ce train. C'est une des rares personnes qui va réussir à sauter du train, parce que ce qui est très étonnant, c'est que les trains qui étaient en zone libre, donc dans le sud de la France, zone non occupée pour être plus précis, les trains roulaient porte ouverte avec un gardien qui était assis, dos au wagon, donc avec tout le monde derrière lui, les jambes dans le vide et son fusil sur les genoux. C'était souvent le cas. Herbert Traubeux explique qu'il aurait été extrêmement simple, ils étaient 80 dans le train, de le pousser, mais personne n'osait. C'était l'autorité, ils étaient pas, ça venait à l'esprit de personne de contester l'autorité de l'armée française. Mais lui, il va passer la tête à l'une des fenêtres du train, parce qu'il y a une fenêtre qui était mal fermée, et regarder la longueur du train. Il explique qu'il observe plus de 10 wagons pendant de longues minutes. Et puis re-rentre la tête à l'intérieur du train, et il y a un homme à côté de lui, un adulte, qui lui dit « Mais si ta tête passe, il y a tout le corps qui passe. » Tous les hommes vont se lever dans le train pour lui permettre de se traverser. Il va réussir difficilement, mais à passer son torse à travers les barreaux, parce que c'est pas une vraie fenêtre en fait, hein, c'est une aération. Vous savez que c'était des wagons à bestiaux hein, qui permettaient de transporter les personnes. Et il va réussir à sauter en contrebas du train, attendre que le train parte et revenir en arrière parce qu'il ne sait pas du tout où il est, et rejoindre la gare de Montpellier. Et quand il arrive à Montpellier, vu qu'il ne connaît pas d'autre endroit en France, il va prendre le premier train qui arrive pour Marseille. Et il explique qu'il doit sa survie, cet homme-là, au fait que les Français ne supportent pas l'autorité. Parce que la première chose qu'il va dire quand il rentre dans le train aux personnes, c'est qu'il n'a pas de billet. Il leur dit pas qu'il est autrichien, il leur dit pas qu'il est juif, il leur dit qu'il a pas de billet. Et le jeu du wagon, pendant tout le voyage, ça va être de le cacher. Quand des contrôleurs arrivent, ils vont le faire sortir à l'extérieur du wagon sur la contre-marche, puis ils vont le cacher derrière des valises, puis quand les gendarmes arrivaient, ils le faisaient passer entre les deux wagons. Ça va être le jeu jusqu'à Marseille, et arrivé à l'Estac, ils vont lui proposer de sauter du train, en disant qu'en arrivant en gare Saint-Charles, il va se faire arrêter sinon, puisque tout le monde était contrôlé. Ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que cet homme-là va, en revenant à Marseille, tenter de re-rentrer, vous vous en doutez, dans le réseau de résistance, parce qu'il n'a pas d'adresse, il ne sait pas où dormir. Ces personnes-là ont peur parce qu'il est recherché, ils disent « Non, tu ne peux pas rester avec nous, va t'engager dans la Légion étrangère française. » Il va s'engager dans la Légion étrangère, traverser avec la Légion la mer Méditerranée et rejoindre le Maroc, quelques jours avant l'arrivée des troupes alliées en Afrique du Nord. Pourquoi je précise ça? Parce qu'après, c'était plus possible. Une fois que les troupes alliées étaient en Afrique du Nord, les troupes allemandes vont envahir tout le sud de la France, il n'y a plus de possibilité de traverser. Mais ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que lui, il va passer de victime à héros, puisqu'il va retraverser pour libérer la Provence, avec l'armée française, se battre et libérer différentes villes en France, mais également à l'étranger, et finir dernier combat en Autriche, sans qu'il l'ait prévu lui-même, parce que ce n'est pas lui qui commandait, vous en doutez, dans sa ville natale. Il va participer à la libération de sa ville natale.
Incroyable.
Cet homme-là est encore en vie, Herbert Traubeux. Et c'est intéressant parce qu'on se pose souvent la question, est-ce qu'ils racontent leurs histoires? Alors déjà, il a fallu longtemps avant qu'ils acceptent de raconter leurs histoires. C'était très compliqué. Il faut bien comprendre que quand ils revenaient, pour ceux qui revenaient de ces périodes-là et ceux qui revenaient des camps, c'est le cas d'une autre adolescente, Denise Toros-Marter, qui avait 16 ans elle aussi, qui était marseillaise, qui va être déportée avec ses parents et ses grands-parents et sa grand-mère.
Où ça?
Ses tantes, à Auschwitz. Elle va revenir d'Auschwitz. Elle va revenir dans un état physique catastrophique. Mais elle explique... État mental et physique. Et il faut comprendre qu'elle faisait 30 kilos quand elle est revenue. Elle est partie, elle en faisait plus de 60. Et elle revient, elle explique qu'elle arrive donc à Marseille en gare Saint-Charles. Et quand elle arrive en gare Saint-Charles, elle voit sa meilleure amie qui vient la voir. Et elle commence à expliquer à sa meilleure amie ce qui s'est passé. Et la réflexe sa meilleure amie était de lui dire « Mais nous aussi, on a souffert. On a souffert des bombardements, on a souffert des privations. » Et Denise dit toujours, parce qu'elle est encore en vie, Denise, elle témoigne beaucoup aussi devant les élèves, elle dit toujours « C'est ce qui m'a fait comprendre que ça ne servait à rien que je raconte. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer ce qui avait pu se passer là-bas. C'était tellement inhumain, tellement inimaginable, que ce n'était pas possible de leur faire entendre cette histoire. »
Ce que disait aussi Boris Cyrulnik quand il racontait, on lui disait « Mais vous, nous aussi, on a manqué de beurre. » Ce qui était tellement décalé par rapport à ce qu'ils avaient pu subir.
Et il va falloir attendre, en fait, plusieurs années plus tard, plus de 40 ans plus tard, pour qu'ils commencent à témoigner. Et s'ils commencent à témoigner, ce n'est pas parce que tout à coup, ça leur prend. Mais c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train d'expliquer que ces histoires ne se sont jamais passées, qu'on appelle le négationnisme, qui explique qu'en fait, il n'y a jamais eu personne. Les Juifs n'ont jamais été tués, les Tziganes n'ont jamais été tués dans cette période. Et quand ils entendaient ça, ces personnes-là disaient « on n'a pas le choix, c'est dur pour nous d'en parler, mais au vu du nombre de personnes qui sont mortes, de nos familles qu'on a vues mourir là-bas, on ne peut pas se taire ». Et c'est pour ça qu'elles ont commencé à parler, ces personnes.
Et alors, justement, pour faire un point avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que Herbert Traube ou Denise, qui sont passés par le camp des Mille quand ils étaient adolescents...
Alors, Denise n'est pas passée, elle,
Non, j'avais pas compris.
Non, c'est moi qui n'ai pas été clair. Denise n'est pas passée, elle. Elle est déportée de Marseille, puisqu'elle est dénoncée par un voisin qui veut récupérer le garage. Donc, elle va partir, elle, à Auschwitz. Elle va être déportée. Elle est déportée en mai 44, deux mois avant la libération de Marseille. Quoi. C'est vraiment...
Et le truc, c'est que c'est un mec qui voulait juste son garage.
Et qui voulait de l'argent. Parce qu'on donnait de l'argent aux personnes qui dénonçaient.
Et qu'est-ce que je veux dire en parlant de jeunes, est-ce que vous avez lu le journal d'Anne Frank?
Bien sûr.
Et enfin, moi aussi. Et je trouve que c'est une histoire assez...
Je m'en rappelle plus, moi, je m'en rappelle plus.
Enfin, je me souviens plus trop, mais je sais que quand même, elle explique qu'elle a souffert d'être cachée dans le bureau, dans le travail à son père, je crois.
Ah oui, elle est morte.
Il va vous raconter.
Anne Frank est une adolescente qui vient aux Pays-Bas. Et qui va être caché par son père dans les locaux qui sont situés au-dessus de son lieu de travail. Il va fabriquer un appartement, une planque en fait, un appartement complètement caché, complètement masqué derrière une armoire. D'ailleurs là aussi on peut le visiter parce que cet appartement est encore
Amsterdam.
À Amsterdam. Et elle va finir par être arrêtée, elle aussi. Et elle va mourir en déportation, Anne Frank. Mais elle va écrire un journal.
Par une maladie.
On mourait alors. Il y a plusieurs façons de mourir là-bas. On ne va pas rentrer peut-être dans les détails des camps d'extermination. Ouais. Le but était de tuer les gens, de toute façon. Donc on tuait ceux qui étaient incapables de travailler tout de suite, c'est-à-dire les nouveau-nés, les personnes âgées ou les mères de famille qui avaient des nourrissons dans les bras parce que c'était pas possible. On tuait toutes ces personnes-là tout de suite et on faisait travailler les autres jusqu'à épuisement. Et quand elles étaient trop épuisées, soit elles mouraient elles-mêmes de fatigue, soit elles étaient elles-mêmes envoyées dans les chambres à gaz. Mais beaucoup mouraient de fatigue et de maladie, bien sûr. Et puis de malnutrition, parce qu'on leur donnait quasiment rien à manger.
Et Anne Frank a effectivement rédigé un journal dans lequel elle a raconté en fait, ses impressions sur la vie en général, sur sa condition d'adolescente, justement, sa planque.
On voit que c'est un jeu quand même de... Franchement, c'est très bien organisé, parce qu'il y a toute sa famille qui s'y met pour les cacher, pour les mettre, tous ses proches, pour mettre sa famille à l'abri. Il y a deux familles ou trois familles, je crois. Et à un moment, elle explique qu'elle a du mal avec le fils... De l'autre famille et tout, c'est vraiment...
Et elle est aussi amoureuse d'un autre, voilà. Aussi garçon de son âge.
Ce qui est très intéressant dans l'histoire du journal d'Anne Frank, parce que ça, on parle de l'adolescence, Anne Frank, elle écrit ce journal sans que son père le sache, sans que ses parents le sachent. Et son père va découvrir le journal de sa fille, alors qu'il est le seul à survivre. Il revient, il est le seul à revenir en vie de cette période. Et il découvre le journal et son père explique, il a expliqué toute sa vie, qu'il avait découvert sa fille au travers de ce journal, qui n'était pas du tout la fille qu'il connaissait, une autre personne. Il y avait la fille telle qu'elle voulait être devant ses parents, ce qu'elle pensait devoir montrer comme image, parce que souvent on montre une image en étant persuadé que c'est ce qu'on attend de nous, et c'est pas forcément le cas. En tout cas, elle montrait une image particulière, et dans ce livre, dans ce journal, elle livrait ce qu'elle avait au fond d'elle. Et il était surpris, plus que surpris, vous imaginez, il était bouleversé de voir qu'elle comprenait tout de ce qui se passait, qu'elle avait une maturité incroyable en écrivant ce livre-là. Et c'est pas pour rien que ce livre continue à être l'un des ouvrages les plus vendus, parce qu'il est très bien écrit.
Mais il est bien écrit et il est parfait pour pour l'apprendre en collège et tout, c'est pour découvrir la période.
Et puis on a quelqu'un qui parle avec ses tripes, on le voit dedans, qu'elle dit tout ce qu'elle pense.
Et il y a certains ados qui peuvent peut-être pas se reconnaître, parce que franchement on peut pas se reconnaître dans cette période-là, mais voir comment un ado a vécu une période aussi compliquée, se mettre dans la peau et se dire quand même que j'ai... Par exemple, voir un ado qui boude tout le temps, qui dit « j'en ai marre, j'ai tout le temps des problèmes », et lire cet ouvrage et se rendre compte que quand même elle a souffert, et se dire quand même que ce que j'ai eu, c'est pas si grave, d'un côté, ça peut être optimisant, ça peut nous faire remonter le moral.
Ce que je dis est très important. C'est vrai que le fait de regarder les autres, on parlait tout à l'heure de se tourner vers les autres, ça a plusieurs intérêts. D'une part, ça permet de s'enrichir, parce que tout le monde a des histoires de vie et des compétences aussi qui sont différentes des nôtres, donc ça nous permet de grandir en compétences, mais ça nous permet aussi de voir ce qu'est la vie de l'autre. Au plus on se tourne sur sa propre vie, et ça, on le fait souvent, et c'est naturel dans les moments où on n'est pas bien, au moins on a du mal à percevoir réellement, comment l'expliquer, ce que j'appellerais le relief de la vie en fait. Voilà, on mesure en réalité ce que le chemin qui nous reste à parcourir, le niveau de bonheur ou le niveau de tristesse, aussi en regardant ce qu'il y a autour de nous. C'est pour ça que c'est très important. Très important de passer son temps à essayer de voir, discuter. La culture là-dessus joue un rôle, à mon avis, très très important. La lecture, le cinéma, tout ce qui peut exister, même l'art d'ailleurs.
Et là, vous aidez toujours des adolescents ou c'est juste un lieu de visite et de culture?
Alors, c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde.
Oui.
Qui est ouvert à tout le monde, mais il y a beaucoup d'adolescents qui viennent parce que ça fait partie du programme scolaire, la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de collégiens, beaucoup de lycéens qui viennent.
Est-ce que, par exemple, vous avez des adolescents, par exemple, qui sont, par exemple, perdus et qui se dit, enfin, qui vont faire le mauvais choix et aller plus vers la facilité de l'argent facile et qui viennent vous parler, vous dire je pense que j'ai fait des conneries, que je sais pas comment me remettre, je sais pas comment.
Alors, déjà, c'est sur le terme de perdu. Moi, je considère que personne n'est perdu, en fait.
Non, pas perdu, mais ils ont fait le mauvais choix.
Ils ont fait des choix qui ne sont pas les choix de que la société leur proposait et qui, parfois, sont pour eux des mauvais choix. Ce n'est pas toujours des mauvais choix. C'est ça qui est particulier quand on fait des choix. Qu'est-ce qui nous permet de dire si c'est bon ou mauvais? Déjà, il faut faire des choix.
Ouais.
Ça, je pense que s'il y a un message à retenir de la vie de toutes ces personnes-là, je parle d'Herbert Traube, de Nice ou d'autres, de ceux qui ont résisté, en tout cas, à un moment donné, c'est qu'ils ont fait des choix dans leur vie. Et ce que dit Herbert Traube, qui est souvent interrogé par les jeunes, je vais répondre en partie à ta question comme ça, qui leur dit « mais vous êtes un héros ». Lui leur dit « mais je ne suis pas un héros, les héros ils sont morts. Moi j'ai eu de la chance. Ah, ben d'accord, mais comment on fait pour être résistant? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été résistant ? Ben j'ai accepté de me tromper. » Alors au début je me disais « mais pourquoi est-ce qu'il leur répond « j'ai accepté de me tromper » ?» Mais parce qu'il n'était pas sûr de la décision qu'il prenait. Et que s'il attendait d'être certain de ce qu'il allait faire, il n'aurait jamais rien fait. C'est pas pour rien que la majorité des populations n'agissent pas globalement dans les sociétés. Elles sont plutôt en attente.
Et les résistants comme par exemple Jean Moulin et d'autres, le groupe de Jean Moulin, il y a un film que j'ai vu, mais donc ça m'a appris un peu l'histoire parce que je n'y connaissais pas du tout dans cette période. Et je trouve que, en fait, j'avais l'impression qu'il était inconscient et qu'il savait ce qu'il voulait en même temps. Parce que franchement, quelqu'un de conscient, je ne pense pas que n'importe qui serait allé se frotter à
alors, et on va terminer là-dessus.
Oui. Alors, je pense qu'il faut avoir une forme d'inconscience. Ou alors il faut être conscient, tout simplement, ou alors il ne faut pas avoir de choix. Mmh. Et quand je dis il ne faut pas avoir de choix, c'est-à-dire que parfois il y a des choses dans nos tripes qui nous prennent, et on ne peut pas faire autrement que d'agir. Et je pense que beaucoup ont réagi et se sont mis à résister pour ça. Parce qu'il y a des choses au fond d'eux-mêmes qui étaient trop violentes. Parce que beaucoup prenaient des risques pour eux, mais prenaient des risques pour leurs enfants et leur famille aussi. Se dire « je vais faire prendre des risques à mes enfants, à mon mari ou à ma femme, en fonction que c'est un homme ou une femme qui décidait de se mettre à résister », c'est plus que nous-mêmes. On ne prend pas la responsabilité que sur notre propre vie, on prend la responsabilité sur la vie des autres aussi. Donc beaucoup le faisaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils sentaient au fond d'eux-mêmes que c'était invivable comme situation et qu'ils préféraient agir plutôt que de se ronger. Je me rappelle une des phrases de Manin, qui est l'un des pasteurs du camp des Milles, qui, voyant le premier convoi partir avec cet enfant d'un an à l'intérieur, dit à sa femme « je ne peux pas, soit je mets fin à ma vie, soit je me bats ». Il va décider de se battre et de prendre des risques. Parce qu'il n'avait pas le choix, il disait que c'était plus possible pour lui de se coucher. Et pour finir sur la question que tu évoquais tout à l'heure, sur des jeunes qui ne sont pas dans le cadre traditionnel, on travaille de plus en plus. En réalité, pour nous, c'est un peu une surprise. Au début, c'était surtout les écoles traditionnelles qui venaient pour apprendre le programme. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était sollicités par des personnes qui venaient d'univers très différents, très variés. Des jeunes qui viennent dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est-à-dire des jeunes qui ont été condamnés par la justice. Des jeunes qui viennent des centres sociaux, qui n'ont pas du tout dans une logique de condamnation, mais qui ne sont pas dans un cadre scolaire traditionnel, parfois dans des situations compliquées d'ailleurs, soit dans la relation à l'adulte, soit dans la relation à la règle, parce que c'est ça aussi que ça interroge la société. Pourquoi est-ce qu'il faut des règles? Pourquoi est-ce qu'il faut une autorité pour le faire respecter? Et pourquoi est-ce qu'à partir du moment où on a appris qu'il fallait des règles et qu'il fallait une société, et qu'il fallait une autorité, ça on nous l'apprend quand on est tout petit, quand on nous amène à l'école, à la crèche, quand on nous dit qu'il faut nous sociabiliser, en fait c'est parce qu'on veut nous apprendre qu'il faut des règles et une autorité pour faire respecter les règles, pour vivre ensemble. Mais une fois qu'on a appris ça, ce que nous montrent l'histoire et les sciences sociales, surtout, c'est que si les règles changent et que l'autorité qui vient faire respecter ces règles propose des choses qui sont contraires à nos valeurs, c'est-à-dire des choses essentielles comme la liberté, le fait que nous avons tous le droit de vivre ensemble, la majorité des gens vont suivre ces règles, quoi qu'il se passe. Et s'il y a un point important à retenir, selon moi, du parcours, ce que je donne à chaque fois comme message, ce sont des individus qui font bouger les sociétés, ce ne sont pas des groupes, ce sont des minorités. Ceux qui font bouger les sociétés dans le mauvais sens, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ce sont toujours des minorités. Donc si on attend dans sa vie qu'une majorité se lève, que des gens se lèvent autour de nous pour nous montrer une direction, on attendra toute notre vie. Je pense qu'il faut avoir le courage de se dire « voilà où je veux aller ». Même si j'ai autour de moi une majorité de gens qui ne sont pas d'accord ou qui ne disent rien, qui ne viennent pas acquiescer ce que j'ai envie de faire, je pense qu'il faut être capable de se dire « je le sens au fond de moi, c'est la direction que j'ai envie de prendre, je la prends ».
C'est ma direction.
Merci infiniment, vraiment, Cyprien Fonviel, directeur du site mémorial du camp des Milles. Je pense qu'on peut vous applaudir pour ce témoignage, mais aussi pour cet échange, parce que c'était vraiment passionnant.
On peut terminer avec la chanson.
Je voudrais terminer avec la chanson que Cyprien avait choisie aussi, pour que chacun puisse avoir un temps d'écoute. Et en plus, ce que je trouve assez intéressant, parce que dans ce choix, puisqu'il s'agit de la mauvaise réputation, précisément. Donc comment être exclu d'une société alors qu'on est juste différent, et que c'est le regard des autres aussi qu'on peut poser sur nous. Et je trouve ça assez intéressant de conclure avec ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson de Georges Brassens initialement, et là, elle est interprétée par Sandra Nkake. Donc, on va finir là-dessus. Merci à tous vraiment infiniment pour toutes ces questions, pour tout cet échange, parce que vraiment, je trouve que ça a tout son sens, justement, de la présence de Cyprien ici parmi nous et de cet échange-là et de cette discussion, parce que c'est à la fois un témoignage, mais aussi une réflexion donc, pour l'avenir. Donc, si on doit garder quelque chose de ça, c'est réécouter cette émission pour y réfléchir pour plus tard. Merci à tous d'avoir participé justement à cet échange. On se quitte avec la chanson de Sandra Nkake, La mauvaise réputation. À très bientôt. À bientôt.
Allez, salut.
Au revoir.
Au revoir.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche tout pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne. En écoutant qui sonne, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que tout le monde me montre du doigt sauf les manchots. Ça va de soi, ils ne font que parler, parler, parler moins. Parler, parler, parler moins. Why don't you parler, let me be parler, what I'm supposed to be. Me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendus.